RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est le directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour.
Bonjour cher Alain.
Et Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Leslie Méniger, présidente de Superga Beauty. Bonjour Leslie.
Bonjour
Alain. Alors racontez-nous, vous êtes né à Paris. Vous êtes docteur en pharmacie, doublé d'un MBA à l'ESSEC. Vous avez passé 15 ans chez L'Oréal avec plein de jobs successifs et différents, Leslie.
Oui, j'ai commencé en marketing, comme beaucoup. Et j'ai fait toute ma carrière sur des postes à la fois en France, à l'étranger, en développement produit. Et je me suis éclatée.
15 ans, ouais. En France, à l'international, que en France ?
En France, majoritairement, oui.
Ouais. Alors, vous avez rejoint l'entreprise familiale. C'est en quelle année que vous avez rejoint ?
C'était il y a 4 ans.
Il y a 4 ans. Vous avez un peu hésité ou pas ? Parce qu'on est bien chez L'Oréal, on est bien payé, c'est tranquille.
Alors, on est bien payé, oui, mais c'est tranquille, non ?
Ah, ça bosse, oui.
Mais ce n'est pas pour ça que je suis partie. Non, je n'ai pas hésité surtout à rejoindre mon père dans ses activités. J'avais fait mon chemin de vie chez L'Oréal. Et j'ai pas hésité et je regrette pas aussi.
Mais vous en avez parlé tous les deux en disant bon, je viens pas.
Non, jamais avant. Alain, franchement, même 2 mois avant, on m'aurait posé la question et j'étais pas, j'aurais dit non. Et puis à un moment, c'est apparu comme une évidence pour moi, enfin pour nous deux.
Et vous en aviez tous les deux envie au même moment, on va dire quoi.
On s'est dit. Je viens pour 6 mois. Il faudra qu'on se dise si ça va pas. Je te le dirai.
Et pour génial.
Voilà, on se dispute pas. Et finalement, je suis restée. Et je n'ai jamais regretté.
Alors l'entreprise, donc c'est une belle ETI, hein, autour de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont les métiers ?
Alors notre métier principal est de fabriquer et de conditionner des produits de soins, des cosmétiques, du parfum pour le compte des marques. Donc on a des usines de sous-traitance qui sont situées en France.
Vous avez 6 usines au total, quoi.
Exactement.
Elles sont situées où exactement ?
Dans les Hauts-de-France et à Strasbourg.
À Strasbourg. Et donc les clients finaux ?
Ce sont les grandes marques de cosmétiques et de parfums et qui ont besoin de nous, soit pour complémenter leurs usines, pour des choses pour absorber les volumes ou des technologies qu'elles n'ont pas, et puis aussi pour toutes les marques qui n'ont pas d'usine et qui souhaitent sous-traiter l'industrialisation de leur créativité.
Et combien de personnes au total, en équivalent temps plein, on va dire ?
On est à peu près 600.
600. Et vous arrivez à trouver des talents, des gens sympas, motivés, fidèles, pas trop chers ?
Ça fait beaucoup, là.
Ouais, ça fait beaucoup,
ouais. Oui, après, je pense que la question derrière, c'est ce qu'on a. On a aujourd'hui des sujets autour du recrutement. Oui, sur des métiers un peu techniques, des techniciens aujourd'hui dans les usines. Après, recruter des talents, des gens qui ont envie. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre, familiales, ETI, sont plus attractives qu'elles l'étaient avant. On est plus visible. Et en tout cas, recruter des talents tels qu'on le décrit, aujourd'hui, c'est pas une complexité pour nous.
Et bosser en famille, ça s'engueule entre père et fille ou pas ?
Alors, pourquoi père et fille, je sais pas. C'est une spécificité. Non, je pense que travailler en famille, c'est efficace. C'est solide. Et en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir et ça donne beaucoup de sens. Je pense aussi aux collaborateurs.
Et vos intérêts sont vraiment liés, quoi. C'est une boîte familiale.
Quand on prend des décisions, les décisions, elles sont pour l'entreprise. Et ça, je pense que c'est ce que les gens ressentent autour de nous, nos collaborateurs ou nos fournisseurs, nos clients. Elles ne sont pas à titre personnel, elles sont en tout cas vers le long terme et pour construire quelque chose. Et c'est la grosse différence.
Pendant la période Covid, Leslie, comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu, vous et vos collaborateurs ?
Très très bien. Enfin, le business, nous, nos usines sont restées ouvertes. Celles de nos clients avaient plus de problématiques à être ouvertes, et donc on a eu beaucoup de besoins. Et nos collaborateurs sont venus travailler dans les usines. On a des gens très impliqués. Donc le Covid en tant que tel, on l'a plutôt bien vécu.
Quoi.
C'est plutôt aujourd'hui une autre complexité au niveau des approvisionnements qui crée chez nous plus de perturbations. Mais le Covid a été plutôt pour nous, apporteurs de business, désolée,
oui,
et en même temps,
et
aussi de fédérer les équipes, aussi de se rendre compte de la richesse qu'on avait dans nos équipes qui se sont mobilisées pour que l'entreprise tourne.
Ludovic.
Alors, on va parler d'international. Je voulais savoir quelle est la part de votre business à l'international en termes de production et puis de clientèle.
Alors, nos clients aujourd'hui sont très français, sont plutôt les gros groupes français et qui veulent revendiquer du Made in France. Mais et en même temps, on travaille aussi à élargir pour des clients internationaux qui de plus en plus recherchent du Made in France. La France est le premier producteur de cosmétiques au monde. Et donc, aujourd'hui, on ouvre plutôt des bureaux commerciaux à l'étranger pour aller vendre du Made in France. Notamment, on ouvre là ce mois-ci à Dubaï.
On va parler de RSE. J'ai vu effectivement en naviguant sur vos fiches produits que vous avez créé une offre clé en main zéro carbone sur des process de fabrication plus respectueux de l'environnement et sur des démarches de compensation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon effectivement vous créez ce produit et comment vous arrivez à démontrer qu'il est zéro émission de CO2 ou zéro carbone ?
Alors là, c'est sur une partie de notre activité où pour les marques aussi, on peut créer leur packaging. Mmh. Donc, la première des choses, c'est de quantifier l'impact carbone que peut avoir une telle ou telle production. Donc, on s'est fait accompagner par Qantis, qui est un cabinet, je pense que probablement vous connaissez, expert sur la partie environnementale. Donc, on quantifie les émissions carbone en fonction de la conception. Et puis ensuite, on essaie de diminuer. Donc, c'est l'équipe du travail de mon équipe de design et de développement qui va proposer des alternatives. Une fois qu'on a diminué, on compense. Donc, on travaille avec ClimateSeed qui va compenser les émissions carbone liées à telle ou telle production.
Alors, j'ai un sujet qui est plutôt achat ou approvisionnement. On sait qu'aujourd'hui, les hausses matières sont légion, beaucoup d'inflation, même des ruptures de chaîne dans certaines industries. Je voudrais savoir de quelle façon justement vous sourcez où vous identifiez ces zones de risque en essayant de trouver des substituts pour continuer à produire pour vos clients.
Effectivement, aujourd'hui, en fait, on double beaucoup les appros. On est dans une phase où on est encore en transition. Je pense qu'il y avait un monde d'avant en termes d'approvisionnement et puis il y aura le monde d'après. C'est plus la même norme. On est en train d'écrire une nouvelle norme avec des lead times plus importants, des MOQ plus importantes, effectivement, de tout doubler les approvisionnements. Donc, on est encore dans cette phase de digestion avec des approvisionnements qui sont très, très chahutés aujourd'hui. Et on est en train de définir, je pense tous, acteurs de la beauté, mais je pense que c'est dans d'autres industries la même chose, de nouvelles normes pour être plus préparés à tous les aléas qu'on peut connaître et à appréhender ça. Donc on a doublé les sourcings sur beaucoup de composants et puis après on organise la production comme on peut.
Donc ça continue à tourner, mais ça a juste évolué.
Ça évolue,
ça
exactement.
Ça continue à évoluer. Quoi, Ludovic ?
Alors peut-être en termes de synergie ou de développement de business, quels sont les prochains relais de croissance que vous avez identifiés ou sur lesquels vous réfléchissez dans votre activité ?
Allez, vous avez 3 heures, Leslie.
Ah, c'est une question compliquée et en même temps passionnante. Je pense que c'est en tout cas mon travail de présidente, justement, d'aller voir plus loin et d'identifier les nouveaux leviers. Le premier, on l'a déjà évoqué, hein, c'est l'international. Et puis derrière, nous, notre objectif, c'est de devenir le sous-traitant, le partenaire industriel de toutes les marques de beauté sur plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, on intègre les métiers, on a les usines, j'ai des équipes de design, des laboratoires. Et donc, je vais intégrer de plus en plus aussi tous les métiers dont les marques de beauté ont besoin.
Mmh. Arnaud.
Leslie, j'aurais voulu vous poser une question concernant le haut de bilan. Vous êtes une société familiale fermée.
Oui.
Oui, vous voyez les... Et alors, quelle vision avez-vous des fonds et des investisseurs ?
Des gens bizarres quand même. Hein.
Des gens bizarres, mais vous vous en passez, vous le voyez comme une nécessité pour croître ?
Aujourd'hui, on a un modèle qui nous correspond et qui nous va bien, qui est d'être 100% la famille au capital et de pas l'ouvrir. Voilà, ce que je vous dis aujourd'hui.
À l'instant T.
À l'instant T, c'est notre position et je le vois pas en revanche avec méfiance ou avec des intérêts. Mais notre modèle aujourd'hui est de se financer de cette manière-là et de rester les seuls maîtres à bord.
Très bien. Si vous ne voyez pas avec méfiance, non, je vais vous poser une deuxième question. Vous avez parlé effectivement du fait que vous êtes dans une période de transmission intergénérationnelle avec votre père. Quelles sont les clés de succès d'une transmission d'une PME ou d'une ETI à l'intérieur d'une famille ?
Le déjeuner du dimanche.
Mais je vous en parlerai quand ce sera fait. Je sais pas quel jour on tire les conclusions de ça. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est ça qu'on est en train de faire et de construire, de trouver chacun sa place et sa complémentarité. Le succès, c'est de se, en tout cas actuel, où mes clés, c'est de se parler. Et ça, je pense qu'en famille, voilà, c'est le fait qu'on peut se dire les choses. Et je pense qu'entre parents-enfants, on peut se dire les choses. Et c'est peut-être la différence avec d'autres collaborateurs. Puis on verra après le sujet de la transmission au sens large. Peut-être que mes enfants viendront avec Alain parler dans 30 ans aussi.
Oui, enfin, ça sera les enfants d'Alain aussi. Arnaud ?
Oui, et vous avez parlé de Dubaï ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous amène à Dubaï spécifiquement ?
Ah bah c'est une zone intéressante pour aussi la beauté. C'est un marché très dynamique et qui de plus en plus recherche des produits valorisés autour de la beauté et donc du Made in France. Donc.
Et aujourd'hui, votre regard, Leslie, sur les ETI à la française, on n'en a pas forcément, on en a peut-être moins que d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider des PME à devenir ETI ? Est-ce qu'on doit plus s'entraider ? Est-ce qu'on doit plus travailler entre Français, entre Européens ? C'est quoi votre vision des choses ?
Je pense effectivement que plus on sera nombreux, plus on pourra porter notre voix. Donc aujourd'hui, moi, je suis membre du club des ETI d'Île-de-France. On se fédère autour de sujets pour nous rendre plus visibles, parce qu'on a des problématiques communes. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on aidera des PME à devenir des ETI. Moi, je suis une jeune ETI. Hein, dans le sein des ETI, il y en a beaucoup des différentes. Mais bon, je pense effectivement qu'il faut se fédérer. Et je crois beaucoup aussi à se rendre visible. La marque ETI en tant que telle, elle est quand même aujourd'hui peu connue. Grâce à ce genre de médias, on est de plus en plus.
ETI Radio, mais c'est quand même pile poil. Hein.
Mais pour la petite histoire, je faisais un recrutement et je regardais sur mon ancienne école qu'est l'ESSEC. Je voulais remplir la case de mon entreprise et il y avait start-up, grand groupe ou PME. Et
il n'y avait pas ETI.
Donc je me suis dit qu'on avait du chemin à faire et qu'il fallait qu'on travaille dessus.
Côté voyage, Leslie, vous aimez voyager ? Un coup de cœur pour le Japon ?
J'y ai vécu 6 mois en stage et ça a été une expérience formidable et oui, un gros coup de cœur.
Dernier livre coup de cœur lu, bien sûr, hein, pas acheté, lu.
J'ai lu récemment la biographie de Steve Jobs et je ne m'attendais pas à trouver ça aussi intéressant. Et je vous la conseille.
Notez Ludovic, hein, Steve Jobs, vous savez comment ça s'écrit.
Si
quoi. Alors côté sport, vous pratiquez beaucoup de sport, non ? Vous êtes hyper active comme fille, non ?
Oui.
Vous faites quoi par exemple ?
Je fais du surf, de la course à pied, du crossfit, du tennis.
C'est génial, vous dormez jamais quoi.
Après avoir fait
tout ça. Quoi. Et pour terminer, vous soutenez, vous à titre perso ou via l'entreprise, des causes caritatives, humanitaires ?
Oui, alors on est très engagé au titre de Superga Beauty sur la cause des femmes victimes de violences conjugales. Donc on est mécène de la Maison des Femmes et on a aussi rejoint la Fondation FACE. Et ça me tient particulièrement à cœur de soutenir ces causes et de les faire valoir.
Merci beaucoup Leslie, ne changez pas, vous êtes juste parfaite. Merci également à vous Arnaud et Ludovic, vous êtes très bien aussi. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.